Bonjour Auroville. Aujourd'hui, je vais vous lire le chant 3, la maison de l'esprit. Le chant 3, le livre 3. Traduit par Satprem en français. Restez une tâche plus prodigieuse encore que tout ce qu'il avait accompli. Il s'est tourné vers cela d'où vient toute existence. Attentif à un signe du mystère qui connaît la vérité insaisie derrière nos pensées et garde le monde dans son regard omnivoyant. Alors je reprends, je me permets de reprendre. Le chant 3, la maison de l'esprit et la nouvelle création. Chant 3, livre 3. Restait une tâche plus prodigieuse encore que tout ce qu'il avait accompli. Il s'est tourné vers cela d'où vient toute existence. Attentif à un signe du mystère qui connaît la vérité insaisie derrière nos pensées et garde le monde dans son regard omnivoyant. Dans le silence impénétrable de son âme, intense, tendue comme une flèche, monumentale, solitaire. Patient, il était assis comme un espoir incarné, immobile sur un socle de prière. Il cherchait une énergie qui n'est pas encore sur la terre, l'aide d'une puissance trop grande pour les volontés mortelles. La lumière d'une vérité seulement vue au loin maintenant, le consentement de sa haute source toute puissante. Mais des hauteurs glacées, nulle voix ne se penchait. Les paupières éternelles restaient closes, nulle ouverture ne venait. Un vide neutre, stérile, oppressé les années. Dans la texture de notre humanité prisonnière, il sentait l'énorme résistance brute, figée, de notre base inconsciente et aveugle. Le refus obstiné et muet dans les profondeurs de la vie. Le non ignorant à l'origine des choses. Une collaboration voilée avec la nuit survivait même en lui et se cachait à ses propres yeux. Quelque chose encore dans son être physique gardait sa parenté avec l'inconscient d'où il était sorti. Une unité fantôme avec un passé évanoui guettait là, amassé, comme un trésor dans la vieille carcasse du monde, secrète, inaperçue, par le mental illuminé, et chuchotait en rêve ou dans le subconscient, murmurait encore contre le choix du mental et de l'esprit. Ces éléments perfides se répandaient comme des graines glissantes, espérant faire trébucher et renverser la vérité qui entre. Et de vieilles voix idéales errantes gémissaient et imploraient l'indulgence des cieux. Pour les gracieuses imperfections de notre terre et les douces faiblesses de notre état mortel, désormais, il voulait découvrir et extirper l'élément qui trahit Dieu en lui. Tous les recoins de la nature étaient mis à nu. Toutes ces cryptes et ces coins sombres étaient fouillés par le feu, où des instincts réfugiés et des révoltes informes pouvaient trouver un abri dans les sanctuaires de la nuit. Contre la blanche pureté de la flamme purificatrice des cieux, tout semblait avoir péri de ce qui était non divin. Et pourtant, quelques infinitésimales dissidents pouvaient échapper. Quelques centres de la force aveugle pouvaient se tapir encore. Car l'inconscient aussi est infini. Plus on s'obstine à sonder les abîmes, plus il s'étend indéfiniment. Alors, de crainte que quelque peur humaine ne vienne fausser la vérité, il a arraché les racines saignantes du désir et offert au Dieu la place vide. Ainsi a-t-il pu supporter le toucher immaculé, une dernière et formidable transformation est venue. Son âme était tout étalée comme une grande mer, inondant de ses vagues le mental et le corps. Son être était tout répandu pour embrasser l'univers, unissant le dedans et le dehors, pour faire de la vie une harmonie cosmique, un empire du divin immanent. Dans cette prodigieuse universalité, non seulement la nature de son âme et l'essence de son mental contenaient chaque âme et chaque mental dans le sien, mais même la vie de la chair et des nerfs changeait et devenait une même chair et un même nerf avec tout ce qui vit. Il sentait la joie des autres comme sa joie. Il portait le chagrin des autres comme son chagrin. Immense comme l'océan. Sa sympathie universelle supportait le poids de la création. Comme la terre supporte le sacrifice de tous les êtres et vibrait de la paix et de la joie du transcendant caché. Il n'y avait plus ces interminables méandres de la division. La vie devenait l'unité secrète de l'esprit. Toute la nature sentait de nouveau l'unique félicité. Il n'y avait plus ce clivage entre une âme et une autre. Il n'y avait plus de barrière entre le monde et Dieu. Les lignes enfermantes de la forme et de la mémoire étaient brisées. L'écorce mentale était empoignée et arrachée. Elle était dissoute et désormais ne pouvait plus être. La conscience une qui fit le monde était visible. Tout maintenant était luminosité et force. Abolis jusqu'à la moindre trace évanescente, le cercle du petit moi était parti. L'être séparé ne pouvait plus être perçu. Il avait disparu et ne savait plus lui-même. Perdu dans l'immense identité de l'esprit. Sa nature devenait un mouvement du tout, s'explorant lui-même pour trouver que tout était lui. Son âme était un délégué du tout, qui se quittait lui-même pour se rejoindre au suprême. La formule humaine était transcendée. Le cœur humain qui avait voilé l'inviolable assumait le puissant battement d'un dieu. Sa recherche mentale disparaissait dans la vérité qui sait. Sa vie était une coulée de la vie universelle. Accompli, il se tenait sur l'ultime frontière du monde, attendant l'ascension au-delà du monde, attendant la descente qui sauverait le monde. Une splendeur et un symbole enveloppaient la terre. Des épiphanies sereines regardaient et les vastitudes sacrées l'entouraient. Des infinitudes de sagesse étaient là et des confins rayonnants se penchaient intimes et fraternels. L'essence défaillait de cette prodigieuse brillance, les voix éphémères tombaient dans l'inaudible, et la pensée, impuissante, sombrée, pâle et lourde, comme un dieu fatigué dans les mystères de la mer. Les robes des conceptions mortelles s'en allaient, laissant nu sa connaissance pour la vision absolue. Le harcèlement du destin cessait, et l'éperon sans trêve de la nature, les halètements d'athlètes de la volonté s'étaient tus. Dans l'immuable paix du Tout-Puissant. Dans son corps, muette et vaste, sa vie gisait, donnée et sacrifiée. Nu, sans mur, sans terreur, il supportait l'immense regard de l'immortalité. Le dernier tressaillement s'est éteint, et subitement, tout est devenu immobile, un poids qui était l'invisible main du transcendant posé sur ses membres, l'immense sceau de l'esprit. L'infinitude l'a englouti dans une transe sans rivage, comme l'un qui fait voile vers les rives du mystère, poussé à travers d'énormes océans par le souffle de Dieu, des abîmes dessous, l'inconnu autour. Son âme larguait l'aveugle chant des étoiles, l'espace. Loin de tout ce qui fait le monde mesuré, plongeant dans les éternités cachées, elle se retirait. des surfaces écumantes du mental. Revenez aux vastitudes, muettes en nous dans un sommeil omniscient, hors de l'atteinte, imparfaite de la parole et de la pensée, par-delà la vue, ultime support de la forme perdue dans les mers profondes de la lumière supraconsciente, ou naviguant dans un néant blanc centré, seul dans l'incommensurable vierge ou par-delà le non-moi et le moi et l'absence du moi, transgressant les rives rêveuses du mental conscient, il est arrivé finalement à sa base éternelle. Sur des hauteurs sans chagrin que nul cri ailé ne trouble, pur et intouché au-dessus du théâtre mortel, s'étale l'air immobile et silencieux de l'esprit. Là, il n'est point de commencement, et là, point de fin. Là se trouve la force stable de tout ce qui bouge. Là, l'ouvrier des âges est en repos. Là, nulle horloge de création ne tourne dans le vide. Nulle mécanique géante regardée par l'âme. Là ne grince nul tournant fatal de l'énorme rouage. Le mariage du mal et du bien dans une même poitrine. Le choc du conflit dans les bras mêmes de l'amour. La dangereuse douleur de l'expérience de la vie. Dans le grand tripot des valeurs incohérentes et hasardeuses. Le péril d'un coup de dé du mental qui jette nos vies contre l'enjeu d'un pari des dieux indifférents et les lumières et les ombres changeantes des idées qui frappent les surfaces de la conscience et les rêves d'une âme spectatrice muette qui crée l'erreur d'un monde à moitié vu où la connaissance c'est une ignorance qui cherche, où les pas de la vie sont une série de faux pas, sans suite. Ces apparences de détour fortuit sont égale mesure du vrai et du faux. Là, dans cet immobile et immuable royaume, ces rouages n'ont nul accès, ni cause, ni droit de vivre. Là règne seulement la puissance hiératique de l'esprit. Poser en lui-même pour une silencieuse éternité et sa paix omnisciente et toute puissante, la pensée ne se heurte pas à la pensée. Ni la vérité à la vérité. Il n'y a point de guerre du bien contre un bien rival. Il n'y a point de faux pas, ni de vie à demi aveugle, qui passe d'un hasard à un autre inattendu. Point de souffrance des cœurs contraints de battre dans un corps fabriqué par l'inconscient inerte. armée du feu occulte invulnérable qui ne s'éteint pas. Les gardiens de l'éternité préservent la loi, à jamais stable sur la gigantesque base de la vérité, en sa somptueuse maison sans bornes. Là, dans son repos spirituel muet, la nature transcendante et inaltérable connaît sa source et consent au remuement des millions de mondes impassibles dans un calme perpétuel. Le témoin, cause de tout, support de tout et hors de tout, regarde depuis son inébranlable assise un œil immense, observe toute chose faite. À part en paix au-dessus des remous de la création. Plongé dans les altitudes éternelles, il demeure défendu en son moi sans rivage, avec pour seul compagnon l'un omnivoyant. Un mental trop puissant pour être lié par la pensée. Un mental trop puissant pour être lié par la pensée. Une vie trop immense pour le théâtre de l'espace. Une âme sans frontières. Inconvaincu du temps. Le roi touché à l'extinction de la longue douleur du monde. Il devenait le moi sans naissance qui ne meurt jamais. Il rejoignait les assises de l'infinitude. La solitude première retombée sur le murmure cosmique. Le vieux contact avec les créatures du temps était annulé. La vaste communauté de la nature devenait vide. Toutes choses étaient ramenées à leur semence sans forme. Le monde était silencieux pour une heure cyclique. Bien qu'il eût quitté cette nature affligée, elle continuait sous lui ses routines sans nombre. Son énorme théâtre s'enfonçait, défaillait, lointain, comme un rêve sans âme qui avait cessé, enfin. Nulle voix ne descendait des hauts silences. Personne ne répondait aux solitudes désolées. L'immobilité de la cessation régnait, le vaste, le calme immortel d'avant la naissance des dieux. silencieuse, une force universelle attendait, l'ultime décret du transcendant voilé. Alors, soudain, un œil s'est penché vers le bas, telle une mer qui explore ses propres profondeurs. Une unité vivante s'est irradiée depuis ce centre et a relié le roi aux multitudes sans nombre. Une félicité, une lumière, une puissance, une blanche flamme d'amour prenait toute chose dans une unique embrasse immense. L'existence découvrait sa vérité sur la poitrine de l'unité et chacun devenait le moi de tout et l'espace de tout. Les grands rythmes du monde étaient les battements d'une seule âme. Sentir était une découverte de la flamme de Dieu. Penser était une seule harpe de bien des cordes. Toute la vie était un chant de bien des vies rejointes. Car il est bien des mondes, mais le moi est un. Désormais, la séance, la semence du cosmos changeait. Elle devenait cette connaissance, abritée dans une enveloppe de lumière. Elle n'avait pas besoin d'une armure d'ignorance. Alors, de la transe de cette prodigieuse embrasse et des battements de cet unique cœur et de la victoire de l'esprit nu, une nouvelle et merveilleuse création s'élevait. D'innombrables infinitudes exultantes, riant immensément d'un bonheur sans mesure, vivaient leurs innombrables unités. Des mondes où l'existence est large et sans mur, incarnés impensablement le moi sans égo. Le ravissement des énergies souriantes joignait le temps au sans-temps, tels deux pôles d'une unique joie. De blanches vastitudes apparaissaient où tout est enveloppé en tout. Il n'y avait pas de contraire, pas de parti fracturé. Tout était uni à tous par des liens spirituels et indissolublement liés à l'un. Chacun était un unique, mais prenait toutes les vies comme la sienne et orchestrait les notes de l'infini. Reconnaissant l'univers en lui-même un splendide centre de tournoiement des infinitudes, poussé jusqu'au zénith de sa hauteur à son ultime élargissement, sentait la divinité de sa propre joie. Des millions de fois répétées dans ces myriades d'autres moi. Inlassablement, ce centre embrassé dans son rayon les personnes et les visages de l'impersonnel, comme pour plonger dans un calcul céleste, par une multiplication de ravissements, les décimales sans fin de l'éternité. Personne n'était à part, personne ne vivait pour lui seul. Chacun vivait pour le divin en lui-même et pour le divin en tous. Chaque parcelle contenait inexprimablement le tout. Là, l'unité n'était pas liée à la monotonie. Elle prodiguait mille aspects d'elle-même. Son immuable stabilité lumineuse portait une invariable base à jamais sûre, comme contraint à une servitude spontanée. Les rythmes imprévisibles et toujours changeants, la chorégraphie mystérieuse de la danse apparemment machinale, des immenses forces cosmiques dans leur jeu parfait. Les apparences se rappelaient leur vérité cachée et transmettaient les différences en un jeu souriant de l'unité. Toutes les personnes devenaient des fractions de l'unique et pourtant toutes était le nombre entier de l'existence. Toutes les luttes tournaient en une gracieuse querelle d'amour, dans la ronde harmonieuse d'une sûre embrasse. La joie réconciliante de l'identité donnait une généreuse sécurité à la différence. Sur une ligne frontière où s'affrontaient de périlleux extrêmes. Le jeu des jeux se jouait au point de rupture, où le moi se trouvait lui-même en se perdant divinement, en perdant divinement son moi. Je répète, où le moi se trouvait lui-même en perdant divinement son moi et faisait éclater la suprême unité, le suprême délice de l'unité, dans la plénitude de la tendresse sans division. On sent la communauté de l'absolu. Nulle part il n'y avait un pleur de souffrance. L'expérience courait de point en point de joie. La félicité était la pure vérité impérissable des choses. Toute la nature était une scène consciente de Dieu. Une sagesse ouvrait en tout, spontanément mue, spontanément sûre, une plénitude de lumière sans limite, une authenticité de vérité intuitive, une splendeur et une passion de force créatrice, infaillible. Bondissant de l'éternité, la pensée du moment inspirait l'acte du moment. Un mot, un rire jaillissait de la poitrine du silence. Un rythme de beauté dans le calme de l'espace. Une connaissance dans l'insondable cœur du temps. Tout rencontrait tout sans recul ni réserve. L'amour était une intime identité vibrante, un seul et un même ravissement sans brisure. Dans le cœur battant de cette vie lumineuse, une vision universelle unissante, une sympathie des nerfs qui répond aux nerfs, une oreille qui écoute le son intérieur de la pensée et suit les intentions rythmiques du cœur. Un toucher qui n'a pas besoin de mains pour sentir et embrasser. Tels étaient les moyens naturels de la conscience. Un enrichissement de l'intimité des âmes entre elles. Un grand orchestre des pouvoirs spirituels. Un diapason des échanges de l'âme. Harmoniser une unité profonde, immesurable. Projeté dans ces mondes nouveaux, le roi devenait une étincelle du regard universel, un poste de la lumière qui habite tout, une onde sur une unique mer de paix. Son mental répondait à d'innombrables communions de pensées. Ses paroles étaient des syllabes du langage cosmique. Sa vie, un terrain du vaste remuement de l'univers. Il sentait les pas d'un million de volontés, marchant à l'unisson vers un même but, comme une rivière qui naît sans cesse et ne connaît pas la mort. Pris dans le flot enchanté de ses mille et un courants, frémissant avec chaque remous de son éternelle tendresse, il sentait ruisseler à travers ses membres les calmes mouvements d'une félicité sans fin. La joie des myriades de myriades qui sont un. Sri Aurobindo. La maison de l'esprit et la nouvelle création Savitri, livre 3, chant 3. Je remercie infiniment Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette lecture. Ganga Lakshmi.